aujourd'hui nous revenons entre physique et chimie, avec Jean-Paul Malrieux. Il est né en 1939 et ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en physique. Et il a fait l'essentiel de sa carrière à Toulouse, où il est au laboratoire de physique quantique. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS. Sa spécialité, c'est bien sûr les questions méthodologiques en chimie quantique et l'étude des matériaux présentant des propriétés électroniques. Bon, il en dira plus lui-même. Il est l'auteur de très nombreux articles de contributions scientifiques dans des revues spécialisées, comme on dit, et aussi d'un certain nombre de publications de critique sociale de la science. Éventuellement, je pense que vous pourrez lui poser des questions. Le titre de sa conférence n'est pas précisé par rapport à la chimie quantique, c'est « Entre physique et chimie, une discipline métisse, la chimie quantique ». Je lui laisse donc la parole pour 50 minutes et ensuite il répondra à vos questions. Merci.
Bien, je vous remercie beaucoup. Très intimidant de se livrer à cet exercice. En général, quand on me pose la question « qu'est-ce que tu fais ?» et que je sais que la personne qui me pose cette question n'est pas scientifique, j'esquive. Et un des mérites de cette série de conférences pour nous, c'est évidemment de nous obliger à forcer cette commode réticence, et vos questions me diront si j'ai réussi à m'adresser à un public que je suppose non spécialiste. Si c'était un public de spécialistes, je reconnaîtrais davantage de têtes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de cette espèce d'intervalle qui se trouve entre la physique et la chimie, mais la chimie quantique est loin d'occuper l'ensemble de cet intervalle, parce qu'il y a des échelles différentes, des échelles macroscopiques, qui relèvent d'une physique classique et qui peuvent s'intéresser, par exemple, à des propriétés de grands ensembles moléculaires dans des liquides, des membranes, des colloïdes, etc., ce qui concerne la matière molle. Et il existe aussi un autre niveau, qui est le niveau microscopique, et la chimie quantique se situe à ce niveau dans lequel la physique pertinente, c'est la physique quantique, et les objets qui viennent de l'autre côté de la chimie sont, grosso modo, à l'échelle moléculaire ou à l'échelle de quelques molécules. La chimie quantique va donc emprunter un certain nombre d'outils et de concepts à la mécanique quantique, à la physique quantique, va emprunter un certain nombre de connaissances élémentaires à la physique atomique, connaissances sur les propriétés des atomes, qui sont les constituants des molécules, va emprunter à la chimie des objets, des problèmes, des concepts, pour les soumettre à sa critique, éventuellement en produire d'autres. Mais évidemment, c'est une discipline qui est essentiellement théorique et qui est distincte, ça je reviendrai en conclusion sur cet aspect, d'une physico-chimie expérimentale qui, elle, interpelle, en adressant les mêmes questions et les mêmes objets, la matière avec des techniques expérimentales, les spectroscopies diverses. Sa connexité avec les éléments de la physique est particulièrement grande avec la physique moléculaire, la physique atomique, mais aussi avec la physique du solide. Voilà placé le champ dans lequel je me situe. Quels problèmes sont examinés ? La première question, c'est la connaissance architecturale et énergétique des molécules. Quelle est la nature des liaisons chimiques, leur solidité ? Quelle est la répartition des électrons entre les noyaux qui constituent l'architecture de la molécule? Première question. Deuxième question, réponse à la lumière. Quelles sont les lumières? Quelles sont les longueurs d'onde auxquelles la molécule répond? Quelles sont les longueurs d'onde auxquelles elle est indifférente? Quelles sont, troisième question, les modes d'association entre les molécules? Quand on les amène les unes en face des autres, à côté des autres, qu'est-ce qui se passe? Quel type de liaison se crée? Quatrième type de liaison, de question, quelles sont les réactions chimiques? En quoi consistent-elles? Quel est le processus par lequel, de la rencontre de A et de B, on va faire une molécule AB ou de la rencontre de AB et de CD, on va casser des liens, les répartir autrement et faire AD plus BC. Voilà le genre de problème que depuis le début, les chimistes quanticiens examinent. Avec quels outils ? Évidemment avec les outils qui leur viennent de la mécanique quantique. C'est-à-dire un corps de concept dans lequel je pense que je ne peux pas faire pénétrer comme ça, mais vous avez eu un certain nombre de conférences là-dessus, des équations maîtresses, en particulier en ce qui concerne les états stationnaires, une équation dite l'équation de Schrödinger, qui manipule un opérateur associé à l'énergie et une fonction qui concerne la répartition des électrons dans l'espace, la fonction d'onde, et qui nous donne l'énergie, à la fois simultanément l'énergie et la réponse à la question de « mais où sont les électrons ?». Elle nous donne aussi un certain nombre d'approximations et je vais avoir besoin d'un certain nombre de concepts. Je vais avoir besoin, parce que ça joue un très grand rôle, de la notion de spin. Alors ça, comment vous faire comprendre si votre petit-fils vous demande qu'est-ce que c'est qu'un spin ? Peut-être que vous pourriez lui donner la réponse suivante. Si les électrons sont des particules qui seraient un peu fibreuses avec des rayons, un peu comme des oursins, d'accord ? Alors, suivant que le spin se caractérise la rotation de l'électron sur lui-même. Et vous voyez que si je veux faire tourner mes particules dans le même sens, elles vont se cogner. Donc, il va y avoir une distance grande entre des électrons de même spin. Si par contre ils tournent en sens inverse, d'accord, là je tourne en sens, mes deux mains tournent en sens inverse, à ce moment-là, elles peuvent s'approcher davantage. Donc vous avez une caractéristique qui est comme un sexe des électrons, il n'y a que deux valeurs, up ou down, ça tourne dans un sens, ça tourne dans un autre, et il y a un effet d'exclusion très fort entre les d'homophobie, si vous voulez, peut-être pas bien vu dans ce quartier, mais entre les électrons de même sexe, de même spin. Ça, je vais avoir absolument besoin de ce concept. D'autre part, la physique quantique nous donne un certain nombre de compréhensions avec les mains sur les composantes de l'énergie. C'est-à-dire que les électrons sont attirés par les noyaux, et ça, c'est les confinerait près des noyaux. Ils se repoussent, soit par cet effet d'exclusion des spins identiques, soit aussi parce qu'ils sont des charges de même signe. Et ça tend au contraire à les écarter les uns des autres. Et puis, il y a une autre composante qui est importante aussi, c'est l'énergie cinétique des électrons. Et pour que l'énergie cinétique soit basse, il faut en quelque sorte que la trajectoire des électrons soit très étalée, sans accident, dans des grands volumes. Et ça, on verra les importances que ça a. Au moment où se constitue la chimie quantique, elle hérite d'un legs très important de la physique atomique, qui a joué un rôle crucial dans le développement même de la mécanique quantique. D'une part, simplification énorme. Les électrons étant beaucoup plus légers que les noyaux, on va pouvoir séparer le mouvement des électrons du mouvement des noyaux. Donc, on va placer les noyaux dans leur position d'équilibre, qu'on peut connaître par exemple par la cristallographie ou par d'autres moyens, ou bien qu'on peut optimiser et déterminer de façon théorique. Et on va mettre les électrons à se promener entre ces noyaux sans avoir à considérer le mouvement des noyaux dans un premier temps. Ou inversement, on va pouvoir ensuite considérer le mouvement des noyaux dans le champ des électrons. Donc c'est une grande séparation, une grande simplification. Ça s'appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. Deuxièmement, nous avons des connaissances sur la structure électronique des atomes. Les atomes portent un grand nombre d'électrons, s'ils sont un peu lourds. Et il y a une organisation de la population électronique par couche et par sous-couche. Les électrons, il existe des couches internes dans lesquelles les électrons orbitent avec des énergies négatives très grandes près des noyaux et qui ne contribuent pas à la liaison chimique, sauf par leur adaptation comme une petite perturbation, à la constitution des liaisons chimiques. Donc on se débarrasse d'une partie de la population importante. Par contre, on a des couches externes qui, dans lesquelles les électrons orbitent plus loin du noyau, à l'extérieur de l'atome, et qui ont des énergies plus faibles, qui sont par conséquent plus facilement mobilisables pour constituer la molécule. Autre chose, dans une même couche, il y a des sous-couches. Je vais utiliser l'image classique de boîte pour pas faire appel à la notion de densité de probabilité de présence et qui caractérise les orbitales moléculaires. Ces boîtes sont des boîtes dans lesquelles vous pouvez voir classiquement, comme ça, des volumes dans lesquels se promènent les électrons. Ces boîtes ont deux caractéristiques, leur extension spatiale, leur volume, qui peut être différente, et d'autre part, des formes. Des formes différentes, qui ne peuvent pas prendre un nombre infini sur l'atome de formes, qui sont bien caractérisées. Il y a des orbitales qui sont des orbitales de type sphérique, et puis vous avez des orbitales qui ont des formes dirigées, par exemple, avec deux lobes dirigés suivant un axe, deux lobes avec des signes différents, un lobe positif et un lobe négatif de même volume. Ce sont des orbitales P, puis vous avez des orbitales de type D qui présentent quatre lobes avec deux lobes positifs, deux lobes négatifs, etc. Donc c'est tout un outillage avec lequel les chimistes quanticiens vont rentrer dans le problème de la construction moléculaire et en se disant qu'après tout, les atomes arrivent les uns vers les autres pour constituer la liaison chimique. Et ils y arrivent avec leur population électronique dans ces boîtes qui sont les boîtes atomiques. Alors la première période de la... Je vais commencer par une scansion temporelle de la discipline en caractérisant différents moments. La première période, c'est celle des années 30, interrompue par la guerre. C'est celle de la compréhension de base et en particulier la compréhension de la liaison chimique. Si donc on ramène l'un vers l'autre, deux atomes d'hydrogène qui sont les plus simples, un électron, avec leur boîte sphérique, puisque l'électron dans l'atome d'hydrogène occupe une boîte sphérique. On va pouvoir, si les électrons sont de même spin, sur chacun des deux atomes, rien ne peut se passer, parce que ce principe d'exclusion interdit à deux électrons de même spin d'occuper la même boîte. Donc il ne se passera rien. Les deux atomes vont se repousser. Si par contre les deux électrons sont de spin opposés, alors on va disposer de degrés de liberté. On va pouvoir mettre un spin-up et un spin-down dans chacune des boîtes, ou l'inverse, ou bien on va pouvoir mettre deux électrons des deux spins différents dans la même boîte, soit A, soit B. Et ce faisant, on va, en autorisant les électrons à se promener de cette façon-là, on va gagner de l'énergie, et du fait qu'on autorise en quelque sorte aux électrons de se déplacer dans un espace plus grand, tout en restant près des noyaux. Et ça, c'est l'origine de la liaison chimique. Une autre description consiste à dire les électrons peuvent se déplacer. Je vais faire, à partir de mes deux boîtes, en déchirant les cloisons qui les séparent, je vais faire une boîte plus grande, qui va être une boîte qui va englober les deux noyaux. Je peux faire soit une boîte qui est symétrique, soit une boîte qui a deux lobes et qui est d'énergie plus haute. Parce que, je vous le dis et réutiliserai cette idée, plus on a de lobes différents, plus on a de cloisons qui séparent dans une même boîte, qui séparent des régions positives et des régions négatives, plus l'énergie cinétique est élevée et plus l'énergie de l'électron est haute. Donc à cette époque-là, s'impose une première idée, celle des orbitales moléculaires de liaison, qui sont à cheval sur deux atomes et qui portent chacune une paire d'électrons de spin opposé. Alors cette idée a été parfaitement généralisable. C'est Eichler et London qui ont fait les premières études de la liaison chimique dans les années 30. Et ensuite, c'est parfaitement généralisable à des liaisons multiples. Quand vous amenez deux atomes d'azote, les atomes d'azote ont 5 électrons, 2 dans une boîte sphérique et 3 dans des boîtes qui sont des boîtes directionnelles, ces orbitales P. Et donc, vous pouvez faire, quand vous en les amenez, Vous pouvez faire une super boîte, une boîte moléculaire qui implique ces deux orbitales dirigées suivant l'axe, et puis vous pouvez faire des espèces de boîtes qui sont, dans lesquelles les électrons ont des énergies moins hautes, plus hautes, entre les orbitales qui sont perpendiculaires à l'axe de la molécule, et vous avez une liaison triple très solide, et la molécule d'azote est une molécule extrêmement solide. Vous pouvez considérer des molécules hétéroatomiques, par exemple LIH, et là, les électrons, étant donné que les deux partenaires de la liaison chimique n'ont pas les mêmes caractéristiques, les électrons orbiteront plutôt, par exemple, dans ce cas-là, plutôt près de l'hydrogène, ils iront se promener du côté du lithium, mais ils préféreront rester plutôt du côté de l'hydrogène. Donc ce sont des liaisons polaires, etc. On va rationaliser de la même façon l'existence des molécules polyatomiques, dans lesquelles chaque atome est engagé dans une série de liaisons avec plusieurs partenaires. Et donc, à la fin des années 30, on a rationalisé toute une connaissance spéculative qui venait de la chimie, ce qu'on appelait les descriptions de Lewis, dans lesquelles les chimistes avaient déjà commencé à considérer que les molécules pouvaient être représentées, ce qu'ils faisaient, ce que vous avez vu dans vos livres de chimie, avec des symboles qui représentaient les atomes, dans lesquelles, positions dans lesquelles se trouvaient les noyaux, et puis des traits qu'on tirait entre eux. Les atomes voisins, et qui était la liaison chimique, et dans laquelle on supposait que on avait deux électrons. Donc on a une rationalisation. À la même époque, toute une autre série de composés vont se trouver rationalisés de la même façon. Ce sont les complexes des métaux de transition, dans lesquels on a les métaux de transition, c'est les métaux du genre fer, cuivre, etc., nickel, et dans lesquels vous avez, ce sont des édifices dans lesquels vous avez en général, un ion métallique, c'est-à-dire qu'il a perdu des électrons, et il est entouré de ligands qui peuvent être moléculaires ou chargés, négativement, bien entendu, et avec des charges nulles ou négatives. Et si l'atome de métal, dans sa forme ionique, n'était pas perturbé par l'environnement, La physique atomique vous dirait où sont les électrons, et vous direz les électrons se retrouvent dans 5 boîtes qui ont exactement la même énergie. Mais la présence de cet environnement perturbe les énergies, et les énergies ne cessent d'être égales, et les électrons vont occuper des orbitales d'énergies différentes, suivant des règles différentes. Et toute une rationalisation extrêmement élégante de la chimie, de la spectroscopie de ces édifices a été possible, d'abord en tenant compte simplement de l'effet électrostatique de l'environnement, puis ensuite en autorisant, en tenant en compte les possibilités pour les électrons du métal d'aller se promener sur les ligands et les orbitales, et des électrons du ligand de se promener sur le métal. Et c'était la théorie du champ de ligand. Troisième rationalisation de cette époque, de base, héroïque, ça a été la compréhension des forces intermoléculaires. Les forces intermoléculaires, c'est super important, parce que si le monde colle un peu, c'est parce qu'il y a des forces intermoléculaires. Sinon, il n'y aurait pas de liquide, il n'y aurait pas de solide moléculaire, la vie n'existerait pas non plus. Donc, d'un autre côté, il faut évidemment que les molécules ne s'écrasent pas, et il y a des forces d'exclusion. Les forces d'exclusion ont une origine quantique, qui a été bien comprise à ce moment-là. Et puis, il y a des forces qui peuvent être attractives ou répulsives, qui sont les forces électrostatiques, parce que les édifices moléculaires, les électrons, se déplacent par rapport aux atomes, et par conséquent, on se trouve avec des excès d'électrons sur certains atomes, des défauts d'électrons sur certains atomes, des charges négatives et positives. Et donc, il peut y avoir entre ces édifices chargés, des orientations, la molécule de NH3, qui est plutôt N- avec des hydrogènes positifs, vous n'avez pas intérêt à ramener les charges moins l'une vers l'autre, et vous allez avoir des effets d'orientation favorables ou défavorables. Et puis il y a un autre phénomène, qui est les phénomènes de, de dispersion qui sont eux aussi les forces en 1 sur R6, où R c'est la distance entre les molécules, et qui sont aussi des forces d'origine quantique et qui proviennent de la corrélation du mouvement. Les électrons sur le système A n'orbitent pas de la même façon s'ils sentent qu'il y a des électrons sur le système B. Et il y a une espèce de corrélation dans les mouvements des électrons sur A et sur B qui stabilise l'édifice AB. Et puis, une chose très très importante pour la vie, c'est la liaison hydrogène qui est un petit peu compliquée parce qu'elle mobilise l'ensemble de ses effets. Enfin, pour terminer sur cette période, élucidation du mouvement des noyaux, de vibration et de rotation des noyaux, de rotation de l'ensemble de la molécule et de vibration des noyaux. Voilà. Donc, tel est l'aube de la discipline. Et puis, une révolution va intervenir qui se déploiera entre les années 45 et 60. Parce que si tout était conforme au modèle de Lewis, c'est-à-dire si on pouvait véritablement penser que les électrons se contentent d'occuper sagement, deux par deux, l'espace entre deux atomes, alors à ce moment-là, on aurait une possibilité d'une description classique. C'est-à-dire la description quantique déboucherait sur une description classique. On pourrait dire tout se passe comme si. Les liaisons sont des ressorts, sont des simples ressorts, avec une longueur caractéristique, une longueur d'équilibre et une dureté du ressort, qui expliquerait la longueur d'équilibre et les vibrations le long de cette liaison. De la même façon, les vibrations entre les liaisons pourraient être vues comme d'autres ressorts. Donc on déboucherait sur une mécanique, sur une simple mécanique moléculaire. Et de fait, dans les années 70, on a pu développer un outil de calcul valable pour de nombreux édifices moléculaires, ceux qui ont des liaisons covalentes bien tranquilles. Et c'est un excellent outil pour la biochimie, en particulier les problèmes de protéines, membranes, etc. Mais deux choses ont imposé de sortir de ce paradigme dans lequel, au fond, la mécanique quantique n'aurait servi qu'à construire une représentation classique. C'est, du premier problème, il existe des molécules dont certains électrons ne veulent pas se laisser assigner à une paire d'atomes. Si vous considérez le benzène, par exemple, dans le benzène, C6H6, qui est une molécule plane, chaque carbone apporte 4 électrons, chaque hydrogène un électron. Chaque carbone rentre dans 3 liaisons qui sont essentiellement dans le plan de la molécule et qui sont bien localisables, conformes à cette description de Lewis. Et puis, il y a un électron qui reste en plan, hors du plan, dans une orbitale qui est antisymétrique par rapport au plan, et lui est à mi-distance, à égale distance de 2 voisins. Donc, il n'y a aucune raison de dire, on est dans un échec par rapport à une description vraiment localisée à la Lewis. La deuxième question, c'était la réponse à la lumière. Et là, la réponse à la lumière ne relève pas d'un modèle local. C'est-à-dire, le photon n'arrache pas l'électron. Quand un photon arrive sur la molécule, il y a deux types de phénomènes qui peuvent se produire, s'il a suffisamment d'énergie. Il peut arracher un électron et donner une molécule avec un électron en moins, un ion positif, ou bien il peut procéder à une excitation, c'est-à-dire une absorption, et la molécule se retrouve non plus dans son état fondamental, mais dans un état excité. Et ceci se passant à des valeurs bien précises de l'énergie, c'est en ce sens qu'il y a quantification. Et ça, ces événements sont des événements délocalisés. L'électron n'arrache jamais, sauf des cas d'hétérogénéité énorme dans la molécule, n'arrache pas l'électron d'une liaison donnée. L'électron part simultanément, pour des raisons d'ailleurs de symétrie complètement fondamentale. S'il y a deux liaisons qui sont à un bout de la molécule et à l'autre, la probabilité d'arrachement, si elles sont identiques et symétriques, la probabilité d'arrachement à gauche et à droite est la même, pour des raisons principielles. Alors s'est imposée une autre description qui est devenue extrêmement populaire et qui est enseignée à l'heure actuelle à tous les chimistes, celle des orbitales moléculaires délocalisées, définies sur l'ensemble de l'espace moléculaire. Je prends un exemple comme ça, 4 atomes qui viennent avec chacun une boîte sphérique et un électron, un BCD. Alors, au lieu de faire des boîtes de liaison, je peux faire des boîtes qui sont caractéristiques étendues dans l'ensemble de l'espace moléculaire. Je peux faire une boîte en déchirant toutes les cloisons, une boîte dans laquelle j'ai un signe positif partout. Donc, l'électron qui va se promener dans cette boîte-là, il a toutes ses aises, il ne rencontre rien, aucune difficulté, il va être d'énergie, il a une énergie cinétique très basse. Il est très heureux, c'est la forme la plus stable. Je peux faire une autre combinaison dans laquelle je vais mettre deux signes plus d'un côté, deux signes moins de l'autre. Donc je vais faire un lobe sur une moitié avec signe positif et un lobe de signe négatif sur l'autre moitié. Alors là, il y a une cloison, l'électron va être moins heureux parce qu'il faut qu'il passe la cloison, et je vais être une énergie un peu au-dessus. Puis je peux mettre deux cloisons et avoir plus, moins, moins, plus, ou quatre cloisons, ou trois cloisons, et avoir plus, moins, plus, moins. Et chaque fois que je rajoute des cloisons, chaque fois, ça coûte de l'énergie, et je vais tomber sur une description dans laquelle je vais avoir une image énergétique, la première orbitale est d'énergie, la première boîte qui est d'énergie la plus basse, la seconde plus haute, etc. Et comme j'ai 4 électrons, là, je vais les mettre deux par deux dans les orbitales, dans les boîtes d'énergie les plus basses. Donc vous voyez qu'ici, nous avons une nouvelle description dans laquelle on va utiliser des espèces de boîtes qui sont délocalisées sur l'ensemble de l'espace moléculaire, qui ont des énergies croissantes avec le nombre de changements de signes. C'est une espèce de vision HLM, hein, dans lequel l'espace au sol, c'est celui de l'étendue définie par la position d'ensemble des noyaux, le volume moléculaire, et puis vous avez cette espèce, les lofts d'en bas sont ceux d'énergie les plus basses, et puis vous montez dans les étages, et vous remplissez tous les étages les plus bas, deux par deux, par des couples. Ioniser, c'est arracher un électron, et arracher un électron d'une boîte qui cette fois-ci est une boîte complètement délocalisée, ça vous coûte une certaine énergie, c'est le potentiel d'ionisation quantifié, et si vous n'arrachez pas complètement l'électron, vous pouvez le promouvoir d'une boîte de basse énergie vers une boîte de plus haute énergie, vous pouvez envoyer un électron de l'orbital φ2 à l'orbital φ3, ça coûte une certaine quantité d'énergie, et vous avez la quantification des absorptions. Alors, évidemment, ce n'est pas des considérations qualitatives comme celles que je viens d'utiliser qui prévalent à la définition de ces boîtes. Là, je fais ça avec les mains. C'est évidemment l'équation de Schrödinger. À cette époque-là, on va utiliser, dans ces années-là, 45-60, je dirais, des formes simplifiées, parfois à l'extrême, de l'hamiltonien, avec des interactions très, très réduites, dont les amplitudes sont un peu calées sur l'expérience. Et on a un modèle qui est assez qualitatif et dont je démontrerai une vertu. Je dirais que pour donner une image du statut que pouvait avoir la discipline à cette époque-là, je mentionnerai l'anecdote suivante, c'est que Staline a envoyé les chimistes théoriciens au goulag à une époque où, évidemment, il demandait aux physiciens quanticiens de lui bâtir les instruments de la puissance de la bombe atomique puis de la bombe thermonucléaire, preuve qu'on pouvait facilement accuser les chimistes quanticiens, parce qu'ils ne servaient à rien, d'idéologie indéterministe bourgeoise, tandis qu'on utilisait avec les mêmes concepts les physiciens pour bâtir les instruments de la puissance. Bon, preuve que c'était vraiment une discipline de rigolo. Et puis, en 1960, environ, hein, je simplifie, l'arrivée des ordinateurs va changer complètement la donne. Parce que on va pouvoir se débarrasser de tout le côté un peu sale qu'il y avait dans la pratique des Hamiltoniens, dont on disait on les simplifiait de façon un peu arbitraire. On faisait des simplifications, des réductions des interactions, et rien n'était bien propre. Maintenant, on va pouvoir, grâce aux ordinateurs, utiliser l'expression exacte de l'Hamiltonien. Bien sûr, on ne va pas résoudre l'équation de Schrödinger exactement, parce qu'elle n'est pas soluble. Sauf pour deux électrons dans un cas particulier. Et on va, par conséquent, prendre des hypothèses simplificatrices. On va travailler avec, toujours avec des boîtes atomiques. Les atomes viennent avec des boîtes. On va prendre une série de boîtes. Simplement, on va en prendre beaucoup par électron. On va, pour leur donner beaucoup de liberté à la description de ces orbitales moléculaires, beaucoup de flexibilité, on va considérer beaucoup de boîtes par électron. Et puis, on va prendre une forme simplifiée de la fonction d'onde. On va dire que les électrons, chaque électron bouge dans le champ moyen créé par les autres. C'est-à-dire, si à un moment donné, l'électron est là, il sent une espèce de champ moyen, de champ statistique. Alors qu'à ce même instant, pour prendre une image temporelle, il pourrait avoir un autre électron très voisin, ou au contraire, les autres électrons pourraient être assez loin à ce moment-là de lui. Donc c'est une hypothèse qui rend les choses très, très faciles, et, enfin, passablement faciles. Et grâce à cette mutation, utilisation de l'Hamiltonien exact, avec une forme simplifiée de la fonction d'onde, on va arriver à une sorte de prédictivité quantitative sans avoir fait aucune hypothèse, aucune simplification. Le seul arbitraire, c'est l'introduction d'une série de ces boîtes atomiques. Alors c'est ce que, avec beaucoup d'ivresse, les chimistes quanticiens de l'époque vont appeler ab initio, un calcul ab initio, au sens où il part des premiers principes et n'utilise pas d'empirisme. C'est une époque dans laquelle on a un grand changement du profil de compétences, parce que la dimension technicienne augmente énormément. On doit gérer, calculer, gérer, mobiliser des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'intégrales. Et les chimistes quanticiens changent d'allure à ce moment-là, deviennent beaucoup plus besogneux, en même temps qu'ils deviennent plus prédictifs et aussi peut-être un peu plus arrogants. Pourtant, à ce niveau-là, ils sont encore pas très rigoureux. Un effort ultérieur va occuper un certain nombre d'entre eux. Bien sûr, il y a tous ceux qui font essentiellement des utilisations, des outils. Ça a été un effort de rigueur qui s'est étendu, qui continue en fait à courir, dans les 15 années qui suivantes, et qui consiste à dire qu'il faut dépasser la seconde approximation, c'est-à-dire l'approximation du champ moyen. Et là, on tombe sur un problème qui est un problème universel de la physique quantique, le problème à un corps quantique, qui est présent en physique atomique, en physique nucléaire et en physique du solide. Il s'agit de penser la façon dont les électrons corrèlent leurs mouvements les uns avec les autres, au lieu d'être dans un champ moyen. Et ça, c'est un problème qui a à la fois un aspect formel, très très joli, sur la nécessité de trouver des façons d'engendrer de très bonnes approximations de la fonction d'onde à partir de l'hypothèse du champ moyen. Il y a des très jolis formalismes, de très beaux théorèmes qui sont constructibles, et on peut aboutir à des algorithmes performants qui vont approcher de très près la réponse exacte. Et puis il y a un aspect physique au problème qui concerne qu'est-ce qui se passe dans l'espace physique. Quand deux électrons de même spin, je l'ai dit, ils ne peuvent pas se trouver au même endroit, la probabilité de trouver deux électrons de même spin au même endroit est nulle. C'est ce qu'on appelle le trou de Fermi. Quand les électrons ont des spins opposés, la probabilité de trouver deux électrons, malgré les forces de répulsion, de trouver deux électrons de spin opposés au même endroit n'est pas nulle, mais elle est toujours plus petite que la probabilité d'en trouver l'un un petit peu à gauche et l'autre un petit peu à droite. C'est une propriété extrêmement subtile de la fonction d'onde qui s'appelle le trou de Coulomb et dont on ne peut pas rendre compte avec lorsqu'on utilise un nombre fini de boîtes. Puis maintenant, nous sommes dans une autre ère que je caractériserai comme l'ère de l'efficience simulatrice. Les calculs rigoureux que je viens d'évoquer et qui donnent des résultats très précis ne sont possibles en principe que pour un nombre réduit d'électrons, donc un nombre réduit d'atomes, parce que le coût du temps de calcul est proportionnel à la sixième puissance du nombre d'électrons. Donc ça veut dire que la voie du calcul des grosses molécules est coupée. Dans les années 60, un théorème a été établi par Hohenberg et Kohn qui dit que la densité électronique dans l'espace physique R3, si on connaît la densité électronique dans l'espace physique R3, on devrait connaître l'énergie. Ça veut dire que l'énergie est une fonction de la densité totale d'électrons. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer chacun des électrons, l'ensemble des électrons, avec une attention au nombre total des électrons, à chacun des électrons, seul compterait, serait possible, si on connaissait cette fonctionnelle qui nous ferait passer de la densité à l'énergie, seul compterait la densité totale d'électrons. Ça serait un gain formidable. Parce que la fonction d'onde que nous manipulons est une fonction de 3n variables, x, y, z, pour chacun des n électrons, 3n variables. La densité, c'est dans l'espace physique R3, 3 variables. Donc, une simplification absolument énorme. Malheureusement, on ne connaît pas la fonctionnelle. Le théorème dit qu'il doit exister une fonctionnelle. Elle est connue pour un cas, le gaz homogène d'électrons. Et à partir de là, avec des raisonnements sur les effets d'inhomogénéité et beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent de l'expérience par des essais-erreurs, ont été proposés une série d'algorithmes de la fonctionnelle densité qui donnent des bons résultats, analogues aux meilleurs calculs les plus rigoureux, ceux de l'époque antérieure, enfin, on continue à les pratiquer, et d'un coût de calcul très réduit et qui, par conséquent, permettent d'aborder des systèmes plus grands et donc de nouveaux marchés. Si on est dans une posture de vendeur. Le problème, évidemment, c'est le caractère semi-empirique de ces méthodes. Parce qu'en cas d'échec, si vraiment vous avez obtenu quelque chose qui est complètement contradictoire avec ce qui est connu expérimentalement, ça veut dire que votre fonctionnelle n'est pas bonne. Alors vous allez complexifier la fonctionnelle, vous allez rajouter des nouveaux éléments dans la fonction, vous allez réajuster des paramètres, et on peut se demander si c'est de la théorie ou si c'est un réseau neuronal. Je reviendrai sur cette question à la fin. Bon, peut-être serait-il temps, après ce parcours sur les périodes de la chimie quantique, de vous parler de quelques-uns de ces succès. Il y a des succès qualitatifs, en particulier la compréhension des forces, des effets, la nature des liaisons, les hiérarchies énergétiques, les modes d'association, etc. Et ce qui a rendu le plus populaire et a imposé en quelque sorte l'enseignement de ces descriptions d'orbitales moléculaires délocalisées, ça a été la compréhension de la stéréospécificité des réactions électrocycliques par Woodward et Hoffman dans les années 60 qui ont permis d'expliquer pourquoi, quand vous avez une molécule qui est une molécule plane conjuguée, de savoir si la réaction qui va fermer la molécule en faisant un cycle à partir des atomes terminaux va se passer de cette façon ou va se passer de cette façon, d'accord, avec un mouvement conrotatoire ou un mouvement disrotatoire. Alors ça ne relève pas d'un modèle classique. C'est pas possible de comprendre ça avec des flèches et des points, et ça a été un succès extraordinaire. D'autres très beaux succès de type qualitatif, C'est la rationalisation des propriétés magnétiques qu'ont des édifices dans lesquels plusieurs métaux portent des électrons célibataires. Ils sont loin les uns les autres, reliés par des ligands. Et la question de savoir s'ils préfèrent avoir des spins parallèles, les électrons restent dans leur boîte. Préfèrent-ils avoir des spins parallèles ou des spins antiparallèles? Il y a une très très belle chimie. Et je voudrais rendre hommage à Olivier Kahn, qui est mort prématurément l'hiver dernier, et qui était, avec Michel Verdaguer, dont j'ai vu la silhouette ici, un représentant particulièrement inventif. Et ça, c'est des gens qui sont à la fois théoriciens et expérimentateurs, espèces rares. Il y a des victoires semi-quantitatives, avec une compréhension de la spectroscopie, de photoionisation, d'excitation, etc. Et puis, il y a des victoires, des succès quantitatifs. Alors, désormais, sont disponibles, pour le calcul de l'état fondamental, des moyens de calcul qui nous permettent de calculer la géométrie, c'est-à-dire la position des noyaux, les angles que forment les liaisons, de calculer les énergies de dissociation, de calculer les fréquences de vibration des noyaux avec une précision de l'ordre du pourcent sur des molécules, disons, jusqu'à une dizaine d'atomes, et qui peut vous donner aussi des tas d'autres observables relatifs au moment dipolaire, les constantes de couplage en résonance magnétique nucléaire, etc. Donc, la chimie quantique est désormais opérationnelle. Pour reprendre un autre type de problème, c'est celui de la réaction chimique. La réaction chimique peut être vue comme ça. L'énergie est une fonction de la position des noyaux. L'énergie, c'est une altitude. Et les positions des noyaux vous définissent les coordonnées dans une carte. Donc, une structure d'équilibre, c'est un minimum. C'est-à-dire, c'est un lac de montagne fermé dans la surface d'énergie. Isomériser, c'est passer d'une forme des noyaux, par une position relative des noyaux par rapport à une position complètement différente, par exemple de passer de HCN à CNH, c'est passer d'un lac à un autre lac. Couper une liaison, c'est passer d'un lac fermé à une vallée. Et par conséquent, comment ça se fait? Ça veut dire que vous franchissez une crête. Où est-ce qu'elle est, cette crête? Est-ce qu'elle est haute? Où sont les cols? Est-ce qu'ils sont faciles à emprunter? Est-ce que ce sont des vallées tortueuses ou des vallées directes qui y mènent? À toutes ces questions, la chimie quantique, sur des molécules de dimension modérée, apporte désormais des réponses fiables. Si bien qu'un certain nombre de questions difficiles d'accès pour l'expérience deviennent désormais accessibles. On peut, par exemple, identifier des composés instables. Je prends un exemple. Dans l'espace interstellaire, règne un quasi-vide. Par contre, il y a des photons. Les édifices moléculaires qu'on y trouve peuvent être des édifices qui auront une longue durée de vie, et vous verrez des signatures dans la spectroscopie hertzienne. Pour les astrophysiciens, vous aurez visiblement des présences de molécules dans l'espace interstellaire. Ces molécules sont inobservables en laboratoire parce qu'elles auront, du fait de la densité en laboratoire ou de la présence des cloisons, un temps de vie beaucoup trop faible. Et donc, il est apparu une astrochimie quantique qui rend de très grands services. De la même façon, descendre dans le tableau périodique, c'est-à-dire prendre les équivalents de la chimie qu'on connaît avec des atomes qui sont lourds, relativistes, qui ont des propriétés différentes, ça permet de voir apparaître d'autres types de liaisons chimiques avant même que les expérimentateurs ne les vérifient. On peut concevoir, grâce à la théorie, des utopies chimiques. On peut, par exemple, voir si des architectures, non encore synthétisées, mais conceptuellement possibles, seraient stables. Par exemple, le cube N8 serait stable. Et évidemment, il serait d'énergie beaucoup plus haute, ce serait un lac de montagne, très bien défendu, ce qui fait que sa synthèse est extrêmement difficile, dont la dissociation en quatre molécules de N2 libérerait énormément d'énergie. Donc vous pouvez aussi être utile et envisager la construction d'édifices de stockage d'énergie. Une autre possibilité, c'est la recherche du design d'une électronique moléculaire, trouver des formes qui permettent de stocker l'information, au moins sous la forme d'un bit. Quand vous avez une molécule ou un ensemble supramoléculaire qui a deux formes, A et A', et si vous savez écrire A ou A' et lire A ou A', alors vous avez un code binaire, vous pouvez imaginer que vous allez faire un stockage d'énergie aux échelles moléculaires. Il y a différents types d'efforts dans cette direction-là. Autre champ d'étude, c'est celui des agrégats. Autre champ d'étude qui concerne plutôt les interactions entre molécules, c'est l'étude de la structure locale des liquides et de leur dynamique, et qui vous permet de voir qu'il y a une extrême labilité, même dans l'eau, qui est un liquide particulièrement compliqué, parce que les mécanismes de liaison sont un peu compliqués, que les effets non locaux, non à deux corps, jouent un rôle non négligeable, vous permet de voir que la labilité des édifices moléculaires est telle que l'idée d'une... Vous ne rencontrerez pas un chimiste quanticien qui parierait un copec sur la mémoire de l'eau de M. Benveniste. Bon, il faut que je termine. Et je vais terminer évidemment par des perspectives et des paris. De Gennes, prix Nobel fameux et mérité, a dit récemment que c'était une science, la chimie quantique, dont il faudrait hâter l'agonie. Heureusement, il nous a mis dans une fosse commune, en bonne compagnie, avec la physique nucléaire et la physique du solide, c'est-à-dire avec pratiquement tout ce qui est quantique. Donc on ne s'ennuiera pas. En fait, non, je crois qu'on a des chantiers énormes. On a des chantiers théoriques sur le traitement correct des états excités, sur les fondements et la recherche de fonctionnels de la densité. Et il y a une révolution opérationnelle qui est en cours, qui consiste à proposer des algorithmes de calcul dont le temps d'exécution soit strictement proportionnel à la taille de la molécule traitée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mentionné la puissance 6e, en DFT c'est puissance 3e de la taille des temps de calcul. En fait, il est parfaitement possible de transformer ces algorithmes de façon à avoir un temps qui soit simplement proportionnel à la taille. Pour ça, il suffit de faire un retour aux orbitales moléculaires de liaison, parce que la physique est essentiellement locale, c'est-à-dire celle que j'ai introduite dans les années 30. Et alors à ce moment-là, il est parfaitement possible de les déterminer avec un temps de calcul et de les utiliser avec un temps de calcul qui croise quand même. Par ailleurs, on a des nouveaux champs d'application. Je crois que, par exemple, la physique des matériaux dans lesquels il y a une corrélation électronique forte, comme les conducteurs organiques, les supraconducteurs à haute température critique, les composés magnétiques, comme les composés à magnétorésistance colossale, tous ces composés ont des propriétés collectives qui sont absolument non locales, mais dont évidemment la compréhension est entièrement basée sur une physique locale, sur les interactions locales. Donc ce que font les physiciens théoriciens, c'est qu'ils traitent ces propriétés collectives avec une représentation de l'Hamiltonien, parce que ce sont des édifices trop compliqués avec un trop grand nombre d'électrons, avec un Hamiltonien modèle. Et la chimie quantique est capable de vous dire si ces Hamiltoniens modèles sont pertinents ou impertinents, trop simplifié, et quelles sont les valeurs des interactions qui ont lieu là-dessus. Par contre, des fois, nous nous cassons la gueule. Je crois que, par exemple, l'entreprise, les chimistes quanticiens se sont engouffrés en masse dans les années 80 sur une tentative de compréhension de la catalyse hétérogène, qui est le mécanisme par lequel des réactions qui sont impossibles en phase gazeuse ou en phase liquide deviennent possibles sur la surface d'un métal, en particulier d'un métal de transition. Et ça, c'est cumulé des difficultés parce que c'est très difficile de bien traiter un métal de transition. Sa surface, c'est encore un niveau de difficulté supplémentaire. Un défaut sur la surface, c'est encore un troisième niveau. Et une réaction chimique là-dessus, c'est extrêmement difficile. Puis j'ai mentionné les perspectives de l'électronique moléculaire. Alors, je vais terminer avec quelques questions plutôt épistémologiques. Pourquoi des chimistes quanticiens? Après tout, il n'y a pas une division théorie-expérience pareille en physique. Ça, je crois que les raisons sont triviales. Parce que la distance entre les pratiques du chimiste de paillasse et du chimiste quanticien est beaucoup plus grande qu'entre le physicien qui manipule des spectroscopies qui sont déjà dans l'univers, dans leur conception dans l'univers quantique, et la théorie quantique. Ces deux distances sont complètement différentes. Donc, elles ont conduit à des constitutions de spécialistes, de chimistes quanticiens. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions heureuses. Quelque chose va peut-être changer, parce que des sociétés, des chimistes quanticiens ont fondé des sociétés logicielles privées qui vendent des logiciels quantiques boîte noire qu'ils mettent à la disposition des expérimentateurs. L'usage en est facile et les réponses sont relativement fiables. Et donc, de la même façon qu'un chimiste n'est pas obligé de connaître toute la théorie qui est à la base de son appareil de résonance magnétique nucléaire, de la même façon, on va voir désormais des chimistes ordinaires utilisés comme une espèce de spectroscopie, de spectrométrie théorique. Ce qui pose d'ailleurs la question de savoir s'il ne faudrait pas renverser notre mode d'enseignement, qui à l'heure actuelle est de la chimie quantique, qui est complètement rébarbatif, parce qu'on part des principes, puis on fait suivre monter la montagne, et les étudiants sont complètement écœurés parce qu'ils restent en plan, quelque part, dans les premiers lacets, avec une somme de résultats absolument dérisoire, et ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas enseignant, malheureusement, peut-être pas pour les étudiants, mais pour moi. Deuxième question, c'est, j'ai plusieurs fois parlé du marché. Est-ce qu'il y a une influence du marché sur une science ? Alors là, je voudrais raconter que, effectivement, les chimistes quanticiens ont vécu avec l'idée qu'il y aurait un marché qui serait, par exemple, celui de la biochimie. Et ça a induit une conversion soudaine des gens qui étaient impliqués dans l'effort de rigueur du calcul ab initio vers la DFT, un certain nombre d'entre eux. Par exemple, John Popple, en 91, ferraillé dur comme fer dans un congrès mondial avec Walter Cohn contre la fonctionnelle densité. 6 mois après, il était converti à la fonctionnelle densité. Bon, c'était peut-être son chemin de Damas, mais le fait qu'il était aussi le fondateur d'une société logicielle et que par conséquent il avait l'impression de passer à côté d'un marché a dû certainement aider à sa conversion. Il a bien fait, hein, il a eu le prix Nobel 2 ans après, avec Walter Cohn. Il y a 2 ans, pardon. Est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est une technique ? Bien sûr, il y a un très fort lien avec l'informatique. Et je crois qu'il y a un risque de technicisation excessive. D'abord, je voudrais dire avec Lévi Leblon que la simulation n'est pas la théorie. Même quand la simulation est fondée sur la théorie produit de la théorie, la simulation produit des nombres. Elle donne des informations spécifiques sur des problèmes spécifiques. Et ça, je crois qu'on voit là l'aube d'un problème général qui sera suivi de la démarche théorique. Le deuxième risque, c'est une perte de séduction. Ça donne à la discipline un profil trop technique. Je crois qu'il existe, c'est un vrai problème par rapport à nos étudiants, un risque d'asservissement par l'outil, de ne pas prendre ces longues plages de temps qui exigent la recherche d'une nouvelle voie théorique. Là, il faut de la concentration, il faut de la disponibilité. Et à nos étudiants pris dans les demandes de résultats, de publications, etc., on les induit à un rapport d'expérience numérique un petit peu asservissant. Le troisième risque, c'est celui d'une sous-conceptualisation. On risque de tomber dans un positivisme numérique. On voit, par exemple, d'excellents travaux qui donnent que des informations purement factuelles, sans essayer de modéliser, de comprendre, de dégager une interprétation qualitative, de, par exemple, répondre à la question « Voilà un édifice baroque, un peu singulier, où sont les électrons, comment on peut comprendre la nature des liaisons chimiques dedans ?» Et ça, c'est une perte de la fonction de représentation qualitative qui est pourtant nécessaire aux chimistes de synthèse. Enfin, une dernière question. Et le plaisir dans tout ça, le plaisir, c'est une discipline qui, je crois, assure beaucoup de plaisir parce que, d'abord, vous jouez avec 3 langages, celui des boîtes atomiques, celui des boîtes de liaison entre 2 atomes, celui des boîtes délocalisées, Et il faut savoir faire sans arrêt passer de l'une à l'autre de façon à rendre intelligible quelque chose qui peut être obscur dans un langage et qui s'éclaire dans l'autre langage. Vous avez des plaisirs qualitatifs de dévoilement et de compréhension des faits. Il y a des défis logiques pour le formaliste, par exemple à l'heure actuelle sur les problèmes des états excités. Pour celui qui est vraiment pris dans un plaisir de type productif, évidemment, il y a le plaisir de puissance, de précision, de la prédiction. Et il y a aussi le plaisir pour l'imaginatif d'avoir des inventions, de jouer avec des inventions qui sont beaucoup plus facilement contrôlables que pour le chimiste de Payas qui doit passer par l'épreuve des faits. Évidemment, il flotte encore une incertitude. C'est par exemple savoir est-ce que, comme je vous le dis sur la molécule N8, d'accord, elle peut exister, mais oui, mais comment on peut la faire? Bon, là, c'est un autre type de problème. En tout cas, je crois qu'il s'agit d'une discipline qui a une culture propre, avec sa tension entre trois impératifs, celui d'une représentation, d'une compréhension. Il y a des démarches de déductives et de représentation imagée, transmissibles aux chimistes. Il y a un deuxième aspect, c'est celui de sa volonté de rigueur, travailler au plus près des solutions exactes et un souci de précision et de prédictivité quantitative. Voilà. Merci.
Vous n'avez utilisé dans votre exposé que la théorie standard. Est-ce qu'il y a des justifications expérimentales ou théoriques pour n'utiliser que celle-ci? Ou est-ce que vous avez eu besoin de dépasser ce cadre?
Non. À ces échelles-là, la théorie standard est parfaitement suffisante.
Bonjour. Dans votre exposé, tout à l'heure, vous avez indiqué deux choses. Ça concerne l'énergie des électrons. Dans un premier temps, vous avez parlé d'électrons internes avec des énergies hautement négatives et les électrons externes avec l'énergie un peu moins négative. Et puis après, vous avez parlé des transitions électroniques en disant que bon, pour qu'un électron aille sur une couche périphérique, il va recevoir l'énergie d'un photon pour monter. Donc là, on parle d'énergie positive, apparemment, puisque ce sont les électrons les plus énergétiques qui sont autour.
Oui, ils ne sont pas nécessairement positifs.
Justement, j'aimerais bien que vous précisiez un peu ce concept d'énergie négative, s'il vous plaît.
Ah, alors, il y a un problème de zéro, d'accord ? Si je mets un électron à l'infini, sans aucun encombre, étalé dans un espace infini et qui soit dans une onde plane, il aura une énergie que je vais prendre comme énergie zéro. D'accord ? Et les énergies sont négatives parce que lorsqu'il va s'en aller vers le noyau, il a une énergie qui est stabilisée. Il a une énergie plus profonde. D'accord ? C'est pour ça que ces énergies sont négatives par rapport à ce zéro-là. De toute façon, l'énergie, c'est toujours par rapport à un zéro. Alors, votre deuxième question, donc, c'est quand il y a eu excitation, il y a excitation vers des niveaux qui peuvent être non peuplés, mais pas nécessairement à des énergies positives. D'accord ? Et puis tout ça, c'est une façon complètement grossière de voir les choses, parce qu'en fait, on ne peut pas parler véritablement d'énergie d'un électron. Quand on est très rigoureux, il y a l'énergie du système d'électrons.
Juste pour terminer, moi ça me faisait penser à la découverte de Paul Dirac sur justement les énergies négatives et l'antimatière. Et j'essayais justement de comprendre ce concept d'énergie négative qui est quand même pas évident à percevoir. Voilà.
Bonjour monsieur. Je voudrais parler toujours de choses pratiques. D'après ce que vous avez dit, une photographie, le fait de faire une photographie correspondrait à l'arrachement sur le film des électrons du film, premièrement, et deuxièmement, Je me posais la question si on ne pouvait pas faire au niveau chimique des photographies, c'est-à-dire inscription dans la chimie, une inscription chimique photographique.
Ah si, oui. Si. Des signatures, l'aisselle d'argent, ce n'est qu'un cas particulier. Vous pourriez imprimer l'impact des photons de façon tout à fait différente, avec des photochimies différentes. Il faut simplement que vous ayez une espèce de photoisomérisation, c'est-à-dire qu'une fois que le photon est arrivé, le système change et il y a une réorganisation de l'édifice moléculaire qui soit visible. Mais par exemple, je crois que Michel Verdaguer pourrait vous, qui est là dans la salle, j'ai vu tout à l'heure, pourrait vous montrer des exemples d'inscription des impacts photoniques qui, dans son cas, il n'a pas cherché à miniaturiser, mais qui rendrait possible une généralisation d'autres types de signatures spatiales des arrivées d'électrons.
Y a-t-il une interaction entre la rotation du noyau et les mouvements d'électrons?
Non. Non. Ou alors, vous pensez à quoi? Le spin nucléaire, par exemple.
Y a-t-il des grandes rotations de noyaux très rapides ou...
Non. Non. Mis à part les phénomènes qui sont liés au spin nucléaire, les interactions entre le spin électronique et le spin nucléaire. Là, oui, il y a des phénomènes, des signatures visibles et des spectroscopies possibles qui sont liées au couplage du spin, cette espèce de rotation interne de l'électron et des rotations internes des noyaux. Ça, oui, ça existe.
Monsieur, ici, il est juste devant.
Monsieur, merci beaucoup pour cette magnifique conférence à laquelle je n'ai malheureusement pas compris grand-chose. J'ai l'impression que je suis séduit parce que ça, elle offre beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais également, j'ai l'impression que l'introduction de la physique quantique dans cette chimie me paraît essentiellement l'introduction de l'effet de spin dans les électrons, en particulier, ou essentiellement. D'autre part, le fait qu'elle repose sur la résolution de l'équation de Schrödinger, dont l'origine est, paraît-il, purement heuristique et n'est pas très bien compris, si ce n'est que justement qu'elle soit heuristique, on ne voit pas très bien en quoi consiste, enfin, sauf pour les spécialistes, en quoi consiste précisément l'hamiltonien de cette équation. Je pense qu'il aurait été utile de le rappeler, au moins pour les ignorants comme moi. Je vous remercie beaucoup.
Que vous dire, le caractère, vous, quand vous fondez une théorie, quand vous posez une série d'axiomes et un corps de concepts dans une théorie, la façon dont vous le posez, et Schrödinger l'a dit lui-même, qu'il y a pensé d'une façon qui est comme une sorte d'illumination incongrue, ça, c'est une chose, la façon dont vous vient, ce corps. Mais ce corps peut tenir debout, hein, et ce corps tient debout. Et ce n'est pas parce que... Mais F égale M gamma n'avait pas non plus de fondements, il avait des fondements heuristiques. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose qui est un corpus qui est cohérent en lui-même et qui vous rend compte d'une série de phénomènes, il n'y a pas trop de réticence à avoir, me semble-t-il.
Je vois pas bien la limite entre chimie quantique et physique quantique, vu qu'on a parlé des orbitales moléculaires atomiques. Où est la différence finalement? En chimie physique, on voit ces choses-là.
Oui, c'est la frontière. La question de la frontière entre ces deux sciences. C'est sûr que vous partez avec la physique et la chimie de deux mondes qui sont très très différents. Épistémologiquement, on pourrait dire que la physique est une science du dévoilement du monde, d'accord, de la recherche des effets d'un monde déjà là, l'été en tout cas comme ça, et la chimie était une science de l'invention du monde, c'est-à-dire qu'elle créait un monde non déjà là, elle créait de nouveaux objets. Et c'était deux cultures qui étaient complètement différentes, une qui est basée sur l'idée de loi et l'autre qui est basée sur l'idée d'objet et spécificité des objets, singularité des objets. Alors que dans cet intervalle, le transfert n'ait pas été nécessairement extrêmement facile, pourrait ne pas nous étonner. Et je dirais que il y a continuité, il y a continuité, déclivité. Alors, le problème est de savoir si effectivement il s'agit que d'une espèce de si la chimie quantique est simplement l'emprunt d'un certain nombre d'outils à une science qui est une science majeure, plus fondamentale, plus abstraite. Et c'est un moulin dans lequel on fait passer des objets spécifiques qui viennent d'une autre science inférieure pour produire une farine de résultats. Je crois que ça, ce serait une vision extrêmement réductive. Parce que l'univers moléculaire est un univers qui a un certain degré d'organisation de la matière. Et à ce degré d'organisation de la matière correspond la nécessité d'approximations spécifiques, de concepts spécifiques qui ont lieu d'être. Hein. C'est un problème un peu général du problème de la réduction en dernière analyse de la connaissance à un autre niveau de connaissance. Et je pense que... Bon. Cette question du réductionnisme qui est derrière est une question qui se pose. À part ça, je crois qu'il y a des dimensions culturelles. Mais je crois que le schéma est devenu beaucoup plus compliqué parce que je crois qu'aujourd'hui, par exemple, la chimie quantique a été capable, sur un certain nombre de problèmes, de prendre, par exemple, des outils de la physique nucléaire et de les appliquer à ces objets. Et à mon avis, ils pourront retourner vers la physique. Ils ont été sophistiqués par les chimistes quanticiens dans un certain nombre de cas. Et par conséquent, on a des transferts inverses qui remontent l'échelle de M. Auguste Comte. Je pense que, par exemple, sur la question des matériaux qui ont des propriétés électroniques remarquables, je crois qu'on aura aussi des transferts en sens inverse.
Monsieur là-haut. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur la délocalisation ? Parce que je n'ai pas vraiment compris ce que ça a apporté par rapport à l'ancienne théorie.
Alors, voilà. Je vous ai, là, d'une part, je vous ai dit que les phénomènes d'excitation ne peuvent pas être... tout est toujours traductible dans n'importe quel langage. Donc avec des boîtes atomiques, avec des boîtes d'orbitales moléculaires de liaison ou avec des boîtes délocalisées, vous pouvez toujours tout comprendre. D'accord ? Simplement, la question, c'est celle de à quel prix ? Et quand vous utilisez... Si vous utilisez des boîtes qui sont trop locales, la compréhension du phénomène de l'excitation va être beaucoup plus compliquée que si vous utilisez des boîtes qui sont des boîtes délocalisées. D'accord ? Quelque chose qui va apparaître comme un événement concernant un électron et le saut d'un niveau à un autre niveau, modèle ultra simple, si vous voulez l'interpréter à l'aide des orbitales locales, vous allez devoir dire c'est une combinaison linéaire de excitation d'ici à ici, d'ici à là, de là à ici, de là à là, et quelque chose qui est simple dans un langage deviendra extrêmement compliqué dans l'autre. D'accord ? Deuxième, je vous ai mentionné un peu rapidement, parce que je me suis rendu compte de l'heure, l'interprétation des réactions électrocycliques, de la stéréospécificité des réactions électrocycliques, qui a valu son prix Nobel à Hoffman, c'est vraiment très beau. Je me rappelle que j'avais un collègue un peu plus vieux que moi qui voulait absolument arriver à trouver une démonstration classique des règles de Woodward Hoffman avec la chimie des paires d'électrons et des mouvements d'électrons avec des flèches comme ça, comme on les enseignait dans les années 50. Quand même, ça c'est un cas dans lequel vous n'y arrivez pas avec un modèle purement local. Enfin, on peut faire une démonstration des règles de Woodward-Hoffman. Bon, mais ceci dit, ce qui est un peu dramatique dans l'enseignement, c'est qu'on n'enseigne pas les codes de passage d'un langage à un autre langage. Et on a vu se répandre l'interprétation. Moi, je trouve qu'on a un enseignement incroyable, parce que la chimie des chimistes, la chimie de Lewis, c'était un bond de la pensée extraordinaire. C'était purement spéculatif et c'était génial d'avoir réussi à comprendre comment s'organisaient les électrons dans la molécule. Et ça, on enseigne, les chimistes pensent avec ça, et puis tout d'un coup, on leur enseigne que des orbitales délocalisées. Et la possibilité de passer d'un langage à un autre, parce qu'en fait, il y a des orbitales délocalisées sont transformées unitaires, des orbitales localisées. Enfin bref, il y a des possibilités de il y a nécessité, à mon avis, de donner aussi une information sur les modes de passage d'un langage à un autre langage. Malheureusement, l'enseignement a vu se superposer un enseignement des orbitales délocalisées, comme ça, brutal, sans que le lien avec la description classique des chimistes ne leur soit donné. Je trouve ça un peu bizarre.
On va prendre encore deux questions, monsieur et monsieur.
À plusieurs reprises, monsieur, vous nous avez parlé de ligand. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que c'est qu'un ligand ?
Bien sûr. Bon, un ligand, le ligand, ça concerne cette chimie organométallique et ça va être des ions négatifs ou des molécules qui entourent un ion métallique positivement chargé. Par exemple, dans le bleu de Prusse, vous avez un ion positif et puis des ions négatifs autour, ou des choses comme ça. D'accord ? C'est tout. Hein, je m'excuse effectivement d'avoir utilisé ce mot sans l'avoir défini.
Monsieur, dernière question.
Je voudrais revenir à l'interaction de la lumière avec les molécules et les atomes. Et je pense qu'il y a vous avez parlé en astrophysique, milieu stellaire. Je pense aussi qu'il y a une explication pour l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère, avec l'interaction du rayonnement solaire. Et je dirais que c'est important, je pense, au niveau pratique. Bon. Alors, à la base, est-ce que l'interaction de la lumière avec les molécules, par exemple l'ozone ou le gaz carbonique ou autre, déjà une lumière visible, puis après dans le domaine infrarouge, est-ce que c'est du domaine de la physique atomique ou moléculaire ou aussi de la chimie quantique bon, déjà pour expliquer, interpréter les spectres d'absorption, les longueurs d'onde, et puis réciproquement pour l'émission des molécules, c'est très important pour éventuellement expliquer l'effet de serre, l'émission pour est-ce que la chimie quantique peut apporter des choses pour la loi de Kirchhoff.
La chimie quantique considère ces questions comme de son champ. Elle peut apporter des réponses, mais l'expérience va apporter des réponses dans la mesure où les constituants de l'atmosphère sont des molécules relativement petites, stables en laboratoire. Les informations qui viennent de l'expérience, c'est-à-dire de la spectroscopie, de l'étude de la cinétique chimique, etc., sont à l'heure actuelle suffisantes. Ce n'est pas le cas pour l'astrochimie, parce qu'en astrochimie, je vous l'ai dit, il s'agit de molécules qui n'existeraient pas en laboratoire. Mais pour ce qui est de la chimie atmosphérique et de tous les problèmes qui se développent énormément à cause de la pollution, la physique moléculaire, les spectroscopies, parfois avec l'aide de théoriciens, jouent un rôle important. Ce que je crains parfois, c'est que l'avenir ne soit constitué d'une série de problèmes urgents face au feu que la technique a engendré, de questions techniques qui se multiplient et qui nous occupent énormément, sans que nécessairement il y ait un très grand progrès de connaissances.
Merci.